Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance.
Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui est un grand amateur de produits bio. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert.
Alors Daniel, aujourd'hui on va parler de produits d'épicerie bio. Notre invité est le directeur général d'Equibio, donc créé il y a 32 ans par Didier Périol. Le groupe est désormais un acteur incontournable de la production et de la transformation de produits bio en France. Equibio vient d'ailleurs de passer le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce notamment au dynamisme de ses marques, donc les pâtes et céréales et quinoa Primeal, les biscuits Bisson et les tartines craquantes, le pain des fleurs. Nous sommes aujourd'hui avec Thierry Chiesa. Bonjour Thierry.
Bonjour, bonjour Philibert, bonjour Daniel.
Alors Thierry, dans cette édition spéciale, on a l'habitude de parler de la crise actuelle et de ses conséquences sur l'activité de nos invités. On aime aussi qu'ils partagent avec nous leur vision du monde d'après. Mais avant cela, on souhaiterait comprendre comment le groupe s'est organisé dès les premières semaines du confinement pour faire face à l'explosion de la demande des produits de nécessité, notamment les pâtes. On se souvient tous de la panique que ça a engendré dans les rayons. Donc déjà, première question, quelle est la hausse de chiffre d'affaires que vous avez observée dans cette période, notamment sur évidemment les pâtes et les produits du même genre?
Bah écoutez, tout d'abord, comme tout le monde, hein, cette crise n'a pas été soudaine, même si je vous cache pas que nous avions anticipé quand même un risque éventuel dès début février. Ouais. Et donc ce risque, bon, là, c'était un risque par rapport à une situation médiatique sur l'Asie où on se disait quand même, est-ce qu'il peut avoir un risque que cette qu'il y ait une pandémie au niveau européen. Donc, on avait quand même pris certaines mesures déjà en termes d'approvisionnement de matières premières, puisque pour faire des pâtes, il faut de la semoule. Et pour faire de la semoule, il faut des blés durs. Donc évidemment, cette semoule, on l'avait anticipée. Et donc, on s'était couvert déjà début février jusqu'à fin avril. Ouais. Donc, ouais, ça, c'était déjà une première chose. Et c'est vrai que quand la crise est arrivée, alors évidemment, c'est couvert sur les semoules, mais c'est couvert sur d'autres matières premières. Moi, j'ai donné comme ordre de couvrir la plupart des matières premières. Et c'est vrai, quand la crise est arrivée, bon, elle a été soudaine, mais on était globalement assez bien préparé.
Même sur ces niveaux-là, vous avez imaginé ces niveaux-là
Alors, on n'avait pas imaginé ces niveaux-là, mais on avait anticipé plus d'un mois de plus, entre guillemets, d'approvisionnement, ce qui fait que ça nous a permis de gérer le pic des 15 derniers jours, pardon, de mars. Ouais. Et puis le mois d'avril, on va dire que globalement c'est 6 semaines intensives, hein, puisqu'après on va dire les 2 dernières semaines de mai sont déjà plus ralenties, mais bon, c'est vraiment 6 semaines où on a vu le pic de la demande qui est monté fortement d'un coup, et donc on a doublé les ventes et on a fait plus de 300% sur nos pâtes. De manière très très soudaine.
Quels autres produits ont présenté une croissance similaire? Parce que par exemple les riz, par exemple, tu as vu
les riz, bien entendu, tout ce qui a été de les riz, les farines, les farines panifiables notamment, les farines pâtissières, les levains également.
Ah ouais. Tout le monde s'est mis à faire du pain.
Voilà, tout le monde s'est mis à faire du pain, des produits de première nécessité, mais aussi des produits pour cuisiner. Voilà, donc c'est un bon retour à la cuisine à travers tous ces denrées de première nécessité. Alors c'est vrai que quand on a eu cette crise, nous, la première chose, on a eu cet engagement, enfin trois mots clés: engagement, mobilisation, solidarité. En fait, hein, c'était on est engagé, on doit répondre à un besoin, on est mobilisé parce que on a senti une mission, hein, comme à un moment donné. Bon, c'est vrai que notre président a parlé au début de la crise de guerre, c'est vrai, ça a peut-être donné d'autres certains thèmes à cette crise, en tout cas au départ. Et c'est vrai que on s'est senti mobilisé, une mobilisation générale et une solidarité pour essayer de répondre aux besoins de répondre aux magasins, ce qui était un point important pour nous. Oui. Mmh. Donc, évidemment, dans un contexte de sécurité, du télétravail, etc. Donc, ça n'a pas été simple.
Nous avons eu des représentants de la grande distribution et de la distribution bio ici. Et systématiquement, en fait, la réponse qu'on avait, c'est que la demande pour ces produits de première nécessité, il a explosé. Et que d'un point de vue logistique, notamment, il s'est concentré sur ces produits-là. Donc, il mettait de côté les produits qui étaient un peu moins prioritaires et surtout les produits des grandes consommations. Donc, je suppose que sur ton portfolio produit, c'était pareil, en fait. Vous avez avez eu une grosse demande de produits, mais surtout concentré sur ces produits-là.
On a eu une demande très concentrée, et je dirais même qu'au niveau des pâtes, puisque nous on fait aujourd'hui plus de 75 références de pâtes spécialisées, que juste à la châtaigne, citron, safran, paprika, et puis des spaghettis, on s'est concentré quand même sur les produits essentiels, parce que il était important d'avoir des gros runs de fabrication pour être capable d'assurer les volumes demandés. On a arrêté les machines pour changer les différentes références que nous fabriquons. Donc on a fait un choix qui est un choix assez compliqué de décider de couper des références et de se concentrer sur l'essentiel. Alors ça, on l'a fait d'autant plus facilement qu'on a travaillé avec nos distributeurs, notamment Biocoop, hein, et bien d'autres, avec lesquels on a partagé les problématiques, on a été vraiment partenaires pour dire, voilà, nous, on est confrontés à cette crise, est-ce que vous pouvez assurer tel et tel volume, macaroni, coquillettes et autres, voilà, plutôt pâte blanche ou demi-complète. Et on a essayé de faire au mieux en disant, bah, écoutez, on met de côté des produits qui sont peut-être moins essentiels, mais qui complètent pour autant la gamme, mais qui ne nous permettaient pas d'assurer une productivité maximale. Vous voyez ? Et ce qui fait qu'on a tourné quand même pendant 6 semaines, 3-8, non-stop, que ce soit au niveau de la production, des ensachages de matières premières farine et au niveau de la logistique. Alors qu'on avait au départ qu'une équipe, par exemple, en logistique, on avait une seule équipe de 22 personnes qui faisait 6h30, 13h. On est passé à 3 équipes avec une rotation de nuit. Hein, donc, hein, et on a recruté en moins d'une semaine 18 collaborateurs. Donc, ça a quand même été une époque difficile quand même, même si on peut pas se plaindre puisqu'on est plutôt dans le sens positif. Hein, on a bénéficié de volume, mais c'est quand même une période compliquée en termes d'adaptabilité et de mobilisation.
Et du coup, tu parlais de l'approvisionnement tout à l'heure, du fait que tu avais anticipé, mais j'imagine que vu que la crise a duré un petit peu, il y a eu une tension sur les matières premières, parce que tout le monde cherchait les mêmes matières premières, bah, justement pour répondre à cette demande de production de blé. Donc j'imagine que le blé est devenu plus rare. Est-ce que vous avez observé une hausse, par exemple, des prix des matières premières sur ce type de denrées ?
Alors non. Non, on n'a pas eu de hausse pour une raison simple. Hein. Nous, on travaille en filière, on a 12 filières depuis plus de presque 30 ans, on a construit des filières. On en a 12 aujourd'hui. On a notamment une filière en blé dur, on a une filière en riz de Camargue, etc. J'en parlerai peut-être plus tard. Et ces filières, elles ont l'avantage de nous mettre dans une relation avec nos producteurs de proximité, de confiance, d'échange. Donc, on n'est pas là pour augmenter les prix parce qu'il y a une crise. Vous voyez ce que je veux dire ? On était surtout là pour se serrer les coudes et assurer les volumes. Et nous, on a la chance d'avoir des productions de blé dur français et d'être producteur français. Et c'est vrai que certains distributeurs qui avaient l'habitude de s'approvisionner en Italie ont été coincés. Parce que, évidemment, par nationalisme, les Italiens ont aussi fourni en priorité leur pays. Et certains de ces distributeurs qui ne travaillaient pas avec nous ont dit, bah, écoutez, nous, on a besoin de vous. Et là, c'était assez intéressant de voir à quel point, finalement, la construction de filières, sa proximité, prenait de la place et de l'importance aux yeux de certains distributeurs. Parce que, finalement, ça coûte peut-être plus cher une filière française, mais ça permet aussi de se rapprocher de nos valeurs et de se rapprocher de tout ce qui a été construit, vous voyez. Et ça, on en a été très fiers.
Pardon, parce qu'on parle en effet souvent de s'investir dans les filières, et ben là, on comprend un des bénéfices d'avoir créé une relation durable avec ces filières en amont sur l'approvisionnement.
Et justement, Philibert, par rapport à ça, Thierry, je suis curieux de mieux comprendre, parce que voilà, il y a différentes façons comment on peut travailler avec cette filière-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? C'est des producteurs avec qui vous avez développé des relations ? Vous allez au-delà juste des relations ? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que vous possédez peut-être des capacités, des productions en propre de certaines matières premières? Comment vous organisez cette partie-là?
Alors nous, la filière, c'est assez simple. D'abord, c'est toujours le producteur, hein, qui reste maître de la filière. Hein. Ce n'est pas à nous de décider à sa place. Par contre, on vient l'aider de différentes manières. Le minimum d'une filière, c'est déjà un engagement de volume et de prix sur 3 ans. Voilà, c'est notre clé d'entrée. On peut pas faire une filière sans un engagement au minimum sur des volumes, engagement ferme, hein, sur des volumes. Ce qui veut dire que quelles que soient les tensions de marché ou les évolutions, bah, nous on s'engage à prendre des volumes. On en prend la responsabilité. Mais nous, ça c'est vraiment la première étape. C'est le béaba de la filière. Après, on va beaucoup plus loin. dans la construction des filières, on s'engage, on investit après auprès de nos producteurs, soit dans des silos, soit dans des outils de décorticage, soit dans des outils de transformation sur place. On crée des associations pour également, on est même président de l'association de blé dur aujourd'hui. On s'investit pleinement dans des engagements à la fois de volume et de prix, mais aussi de soutien par des aides financières. On est même minoritaire dans certaines sociétés pour participer au partage de la valeur. On n'hésite pas à partager nos marges, à bien être sûr qu'il y a un bon équilibre. Et puis, notre enjeu, notre motivation et celle de toutes les équipes, c'est bien entendu, quand on s'engage avec des producteurs, c'est de se motiver à aller les vendre et à les pousser au détriment d'autres références, hein, si je peux me permettre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, sur les filières, on a quand même 12 millions d'UVC vendus, 460 producteurs, 214 produits qui sont issus de démarches filières, avec 12 filières qui ont été construites, et on le voit, chaque année, on est en croissance de 20 à 25% sur les produits filières, et cette année, c'est 52% sur les pâtes filières, 100% pendant la période Covid. Donc voilà, on voit vraiment que les consommateurs ont pris conscience quand même de l'importance du local, de la proximité, de la relation humaine, du respect de l'écosystème, d'arrêter de subir la mondialisation finalement pour avoir un meilleur prix sur son produit, pour quel bénéfice, pour quel intérêt. Voilà, quand on est confiné, on a pris aussi conscience de ça, hein, à un moment donné, hein.
Et justement, on parlait de l'explosion de la demande des pâtes, de produits de ce genre là et est-ce que par exemple la catégorie des produits bio engagés, donc peut-être celle que vous produisez, elle a surperformé par rapport à la catégorie des produits conventionnels ou pas?
Oui, alors les produits bio ont beaucoup performé. Hein. Bon, alors déjà, de manière globale, en conventionnel et en magasin bio. Donc, il y a eu quand même, on peut dire, une résilience, hein, au niveau de l'alimentation et notamment par rapport aux produits biologiques. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire le consommateur. Et puis, on l'a quand même noté, à chaque crise, les produits biologiques ont quand même toujours connu un effet de croissance parce que progressivement, les consommateurs prennent conscience de l'importance de l'alimentation. Si vous prenez la crise Covid, quand vous notez que pendant la crise, chaque soir, aux informations, on vous disait « attention, si vous avez des problèmes de diabète, si vous êtes plutôt avec un surpoids, attention, vous êtes à risque ». Mais c'est une prise de conscience qu'à un moment donné, l'alimentation joue énormément sur la santé. C'est une façon de dire « mange pas trop de sucre », c'est une façon de dire « attention, le surpoids, c'est quoi ? Trop de viande, pas assez d'équilibre dans son alimentation ». Donc, il y a eu des prises inconscientes de dire « oui, à un moment donné, je pense qu'il faut faire attention à notre alimentation ». Ça aide, on le voit avec une crise Covid, ça nous aide à surmonter cette crise. Donc, cette prise de conscience que les produits bio étaient quand même plus bénéfiques, elle s'est faite. Et après, nous, on a eu un deuxième effet. L'effet magasin bio, où grâce au réseau de proximité et du fait que les consommateurs n'avaient plus envie de se déplacer ou d'être dans des lieux type hypermarché avec énormément de personnes ou à proximité ou des queues trop longues, eh bien les magasins bio ont bénéficié de nouveaux consommateurs. Ils ont recruté des nouveaux consommateurs qui n'avaient pas toujours l'habitude d'aller dans ce type de magasin parce que c'était pas leur modèle, hein. Et ils ont découvert pour certains la variété, la diversité des produits. C'est sûr que dans un magasin bio, on va trouver des farines des potes, des farines complètes, des riz longs, demi-longs, demi-complets, ronds, longs, etc. Des pâtes de spécialité qu'on ne trouve pas. Une offre, pléthore d'offres sur des produits de première nécessité. Et ça fut très intéressant parce que il a pris conscience finalement qu'il y avait d'autres modèles alimentaires, d'autres modèles de consommation et d'autres façons d'acheter. Alors, qu'est-ce qui va rester de cette crise après au niveau des magasins bio? Je ne sais pas, mais c'est vrai que les magasins bio en ont beaucoup bénéficié pendant la crise, et tant mieux. Et on a été très heureux de pouvoir les satisfaire et d'arriver à suivre la demande.
Je pense que ça a même poussé les consommateurs, comme tu disais, à découvrir des nouvelles variétés des produits, parce que si les riz longs étaient en rupture, ils allaient peut-être sur du riz thaï, j'en sais rien, sur d'autres produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de consommer, quoi.
Exactement.
Et Thierry, si on parle du déconfinement, est-ce que tu as vu, là ça fait quand même quelques semaines déjà que nous sommes déconfinés, est-ce que tu as vu une évolution par rapport à la demande? Est-ce que tes chiffres ils sont revenus à la normale ou ça reste à un niveau très élevé? Comment tu vis ces déconfinements?
Alors moi finalement le déconfinement je l'ai trouvé plus difficile que le confinement. Voilà, déjà parce que je n'avais pas vraiment la date exacte et que on l'avait quand même assez bien anticipé, mais le confinement, comme je vous l'ai dit, on le sentait arriver, on a vu les Italiens quand même 15 jours avant qui étaient confinés, on avait plus ou moins anticipé, on savait gérer. Le déconfinement, bah déjà, combien de temps allait durer le confinement, ça c'était compliqué, donc c'est vrai que début mai, nous, on a quand même connu, comme je vous l'avais dit, on s'était plutôt bien anticipé jusqu'à fin avril, et début mai, bah, on a commencé à avoir des plus de difficultés sur certaines matières hein, en termes d'approvisionnement, notamment tout ce que retail basmati, parce que des difficultés d'approvisionnement, des durées plus longues, des douanes, etc. Donc ça, c'était le premier point. Donc il a fallu gérer ça. Gérer aussi les collaborateurs à un moment donné qui reviennent sur site, avec alors de manière assez progressive, mais quand même, aujourd'hui, c'est plus de 30% qui sont sur site et 50% à partir de 18 juin, et avec toutes les mesures de sécurité. Et puis, le tout dans un contexte de magasins qui continue à bénéficier d'un volume supérieur à la moyenne, puisqu'aujourd'hui, globalement, si je prends l'ensemble des magasins bio, on est sur une moyenne de plus 20% par rapport à l'année dernière. Donc on peut dire, et j'en suis persuadé, qu'ils ont quand même gardé, capté une clientèle nouvelle. Et ils ont moins de visites, mais les paniers moyens sont souvent plus importants.
Et une question par rapport à la distribution en ligne, en fait, je suppose que comme tout le monde, tu as dû voir que les acteurs en ligne qui vendent tes produits, ils ont dû faire des croissances très importantes aussi pendant cette période.
Quel est
pour toi les mix? Comment ça a évolué? Je connais pas ton mix d'habitude, mais comment les mix offline et online a évolué pour tes produits?
Alors nous, on est très, d'abord nous, on est depuis 32 ans spécialisés en magasin bio et c'est vraiment notre cible partenaire. On a construit avec eux, on comprend ce modèle, on est associé à ce modèle. Alors en termes d'offres online, on a quelques partenaires aujourd'hui qui font du bon travail, on va dire online, spécifiquement historiquement, pour pas le citer, Greenwiz qui est
le majeur,
qui ont connu des croissances exceptionnelles, fulgurantes, qu'ils n'ont jamais vues, hein, donc c'était 300% je crois de mémoire, hein, donc je crois qu'ils ont eu énormément d'ailleurs de difficultés à tout suivre, hein, parce que c'était vraiment
ils ont important. Dû freiner leur vente en fait, la demande.
Voilà, après on n'est pas sur un modèle historiquement, le modèle du magasin bio qui s'est construit autour du online, mais ce qui est intéressant c'est que pendant la crise, toutes les enseignes ont fait preuve d'agilité et ont tous mis en place pratiquement en 2 semaines du click and collect. Et très intéressant d'ailleurs parce que c'est des modèles qui finalement étaient en attente, en réflexion, et là ils ont accéléré. Et puis maintenant on commence à voir quelques enseignes qui sortent leur site online. Donc je pense que le modèle du online associé à une enseigne va vraiment se déployer, je pense, sur cette année. Oui, il va avoir une vente online qui va rester plus importante.
C'est clair, c'est certainement, c'est sûr. En effet, cette crise va être un accélérateur de ce phénomène-là. Et c'est ce que nous dit Pierrick Deron, le président de Biocoop, qu'on a eu la chance de recevoir sur le podcast, qui en effet, ils avaient, comme tu le disais, un projet de digitalisation et de lancer un site e-commerce qui venait de lancer avant la crise. Et avec la crise, ça s'est accéléré. Et là, ils vont accélérer les développements et les investissements pour développer davantage.
Voilà, oui, c'est sûr. Parce que tout le monde voulait y aller, mais plutôt prudemment. Ouais, ouais. Parce que c'était pas le modèle historique des magasins bio. Oui, hein. Mais aujourd'hui, ça va s'inscrire. Mais je suis confiant parce que c'est surtout une antenne, on va dire, des enseignes, voilà. Voilà. Donc après, il restera un autre phénomène qui n'a pas été exploité par les magasins bio, mais qui a été très très bien exploité par le conventionnel, c'est le drive.
Ouais.
Le drive en conventionnel a réellement explosé, hein, par rapport à d'habitude. Et aujourd'hui, c'est pas encore un modèle très répandu en magasin bio.
Et le vrac d'ailleurs, est-ce que c'est une part importante de ta distribution, le vrac?
Le vrac, oui, c'est très important, ouais. Puisque nous on a plus de 170 ref en vrac, du produit simple à la filière au produit mélangé. Alors le vrac n'a pas connu la croissance, on va dire relative des autres références en produits emballés pour une raison simple, c'est du vrac. Ouais. Problématique quand même pendant cette période de doute sur l'hygiène, voilà, notamment sur les produits en bac. Alors vraiment, c'est eux qui ont connu le plus de difficultés, tout ce qui est biscuits. Où il a fallu être agile et faire des produits en carton, hein, pour cartonner déjà entre guillemets et livrer en produit plutôt familial que en vrac. Mais donc on a eu une offre importante sur le 1 kg, le 2 kg, le 5 kg, mais le vrac a connu plutôt d'accélération par rapport à l'année dernière, qui était pourtant, parce que c'était vraiment l'arme, on va dire, nouvelle des magasins bio avec le plus gros déploiement, développement, une grosse tendance, et là ça a connu un petit choc.
Ouais, on a enregistré un épisode avec Réseau Vrac, il nous expliquait qu'il y avait une très très forte croissance sur le vrac, évidemment c'était avant la crise, on n'a pas de mal à croire que la crise a certainement, j'espère ponctuellement, ralenti ce phénomène. Si on parle un peu d'international, j'ai vu que vous vendiez un petit peu à l'export, au moins en Europe, comment la crise a impacté vos ventes à l'export?
Bah nous, Equibio, on a deux filiales. Tout d'abord, on a une filiale en Belgique. Ouais. Qui s'appelle Hygiena, une filiale en Espagne qui s'appelle Biocop aussi, mais bon, avec un seul O. Et voilà, c'est une entreprise historique d'Espagnol. Et dans les deux pays, hein, très limitrophes et pour lesquels on est relations très proches puisque ce sont des filiales, on a eu les mêmes effets. Ouais. Pleinement. On a eu les mêmes effets sur quasiment les mêmes références. Les mêmes croissances, voilà. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est un phénomène européen, hein. Je pense que l'Italie a eu également les mêmes résultats. Donc aujourd'hui il y a une vraie tendance européenne commune sur le déploiement du bio et des denrées alimentaires essentielles.
Et donc, je voulais parler du résultat et de la rentabilité, parce que certes on a vu qu'il y avait une forte hausse du chiffre d'affaires, même si évidemment elle est ponctuelle, même si tu dis qu'il y a encore des résidus aujourd'hui, mais de l'autre côté il y a des coûts de production qui ont augmenté pour la mise en place des mesures barrières. Et quel est l'impact de la crise sur la rentabilité, le résultat du groupe?
Bah écoutez, il y a tout de suite et après, en fait. Tout de suite, on peut dire oui, c'est plutôt bénéfique, puisqu'on a connu quand même en moyenne, sur les deux mois, mars-avril, un 35% de croissance moyen, hein, aujourd'hui. Donc c'est sûr que bon, quand on amène 35% de volume supplémentaire, ça a quand même des effets sur le résultat, mais on n'a pas tout compté. Et là, on commence à compter. Et c'est vrai que, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts importants, notamment en termes de main-d'œuvre additionnelle, mais aussi de coûts de protection, hein, des collaborateurs. J'ai fait le calcul. On aura à peu près pour 60 000 euros de masques en coût et plus de 21 000 euros de gel sur la période là.
Donc ça, forcément, vous voyez, ça impacte le PNL, oui, forcément.
Ça impacte le PNL, mais bon, c'est pas des coûts qui sont engagés tout de suite et qui n'étaient pas budgétés. On a, voilà, d'autres coûts, les coûts de main aussi de mise en place de mesures de sécurité, les coûts à la logistique où on garde plusieurs équipes, c'est pareil. Voilà, il y a des coûts cachés qui sont en train d'arriver qu'on n'avait pas obligatoirement identifié pendant la crise, parce que c'était pas le moment et qu'on était là pour servir, comme je vous l'ai dit, à mission engagement, mobilisation, solidarité. Donc notre enjeu premier, c'était de satisfaire nos clients, garantir les volumes, satisfaire les consommateurs et surtout pas tomber dans la crise de psychologique d'une pénurie, hein, parce que ça aurait été catastrophique, hein. On l'a vu sur les papiers toilettes quand même, à quel point on peut devenir un petit peu irrationnel. Hein.
Et sur le résultat, on en parlait tout à l'heure, vous avez eu de la chance et vous en sortez mieux par rapport à certains de vos concurrents, c'est que vous n'avez pas observé de hausse des matières premières. Parce que là, pour le coup, j'imagine que d'autres producteurs transformateurs qui ont connu les mêmes hausses des coûts de production que tu mentionnais, mais en plus ont connu une hausse des matières premières. Donc là, certes, hausse du chiffre d'affaires, mais pas forcément une hausse de la rentabilité, quoi. Vous en sortez.
On a tenté de nous faire une hausse des transports pendant la crise, mais ils sont vite revenus en arrière parce que quand même c'était quand même pas tout à fait bienvenu. Ouais. Et c'est une bonne chose et on les remercie, tous nos partenaires, d'avoir quand même, même si eux aussi ont eu des surcoûts, hein, on en est conscient, hein, que ça n'a pas dû être simple, mais la prise de conscience de rester solidaire, elle a été très appréciée, tant mieux, je les remercie encore. Mais globalement, au niveau des approvisionnements, vraiment, il y a eu une filière solidaire, hein, je peux dire ça comme ça, hein, de vraiment continuer à suivre les produits, garantir la satisfaction au détriment du coût. Voilà. Et tout le monde l'a fait, je pense. Voilà. Peut-être parce qu'on se sentait une mission, hein, je vous l'ai dit, hein, ou privilégié parce qu'on continue à travailler aussi. Hein. Voilà. Il y a une forme d'inconscience dans ces moments-là. Hein,
C'est clair. Et Thierry, tu parlais que vous avez bien préparé les confinements avec un peu d'avance, hein, tout ce qui est approvisionnement, mais un peu moins préparé les déconfinements. Et justement, l'après-crise, est-ce que vous prenez un peu d'avance pour préparer cette après-crise-là? Est-ce que vous en tirez des leçons déjà de ces trois derniers mois? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour la suite? Comment vous voyez aussi l'évolution du consommateur dans cette nouvelle période?
Ah, très bonne question. En fait, dans l'après-crise, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie qui nous concerne, nous. Finalement, ça a été aussi un accélérateur dans notre mode d'organisation de travail. On s'est quand même rendu compte que le télétravail avait aussi des avantages. Pas évidemment de manière excessive et de manière subite, mais on a quand même vu des intérêts. Donc, il est certain que dans notre organisation de travail future, on va aussi mixer ce mode-là. Il y a une forme d'efficacité qu'on ne trouve pas dans la réunion réelle ou dans l'organisation réelle. Et ça, c'est un fait. Après, bien entendu, la relation sociale est essentielle. Le deuxième point, c'est tout le système de processus. Où on voit bien que dans une crise, si vous êtes bien processé, ça fonctionne bien. Dès lors que vous êtes dans un modèle un petit peu agile mais pas processé, où vous subissez et vous restez extrêmement présent. Et donc c'est vrai qu'il y a certains endroits de notre organisation où on a senti quand même qu'il était bon d'accélérer la mise en place de processus plus clairs, plus précis sur les modalités de responsabilité. Donc ça va nous faire progresser dans notre fonctionnement et dans notre performance.
Efficacité, voilà. Ouais, c'est ça.
Et notre efficacité. Mmh. Et puis, dernièrement aussi, on l'a vu, hein, à un moment donné, quand on accepte de faire moins de produits, mais de faire mieux, on a aussi une meilleure productivité. Donc, à un moment donné, il y a aussi la performance des innovations. Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'innovations ou moins, mais très performantes, voilà. Donc, pour faire moins, il faut peut-être passer plus de temps, plus de réflexion. Donc, il y a tout ce travail qui a été engagé, qui est très intéressant dans la prise de conscience que l'entreprise a aussi des choses à améliorer pour être plus performante. Et la crise est un accélérateur et à ce niveau-là. Deuxième point, c'est au niveau du consommateur. Pour répondre à ta question, l'après-crise sur le consommateur, oui, c'est aussi, je pense, à un moment donné… aller davantage sur des produits continuer le travail qu'on a fait sur les filières agricoles et notamment locales, françaises, accélérer le travail sur les emballages, démocratiser aussi le végétal, pas rester sur finalement que les pâtelleries, hein, mais aussi accélérer toute la diversité pour montrer qu'il y a un écosystème et que la nature doit être respectée. Et pour qu'elle soit respectée, il faut à un moment donné donner sa chance à toutes les céréales qui alimentent cet écosystème. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous va bien parce que Equibio se construit sur du végétal, sur le bio-végétal. On essaie d'enchanter le végétal depuis 30 ans à travers toutes nos marques, Priméal, Pain des Fleurs, Bisson, Mamie sans gluten, Plénidée. Donc voilà, on a beaucoup d'outils à notre disposition, de marques pour le faire. Donc, ça donne du sens à notre travail, ça donne du sens à toutes ces marques. C'est intéressant. Je pense que c'est intéressant que le consommateur continue à prendre conscience de ça. En tout cas, nous, on va continuer à aller dans ce sens-là.
Et justement, sur cet engagement, en préparant notre échange, je regardais un reportage passionnant sur Priméal et notamment sur la production du quinoa en Bolivie. Alors certes, c'est super de soutenir les agriculteurs là-bas. Et d'ailleurs, sur la vidéo, je trouvais que les paysages étaient magnifiques, ça donnait envie d'y aller. Mais je me faisais la remarque que l'impact carbone du quinoa, il doit pas être très très bon. On est à plus de 8000 km, donc j'imagine que vous avez complètement conscience de ces sujets. Et ça m'intéressait d'avoir la vision du groupe sur ces enjeux, sachant qu'en plus, en creusant, j'ai découvert qu'il commençait à y avoir des filières de production en France. Je sais, est-ce que c'est des filières intéressantes? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est des filières que vous soutenez?
Alors, le quinoa de Bolivie, d'abord, c'est dans l'ADN de l'entreprise historique, puisque c'est M. Pérol qui l'a pas découvert, parce que je ne vais pas dire qu'il a découvert le quinoa, ça serait un peu trop, mais qu'il a quand même fait découvrir aux consommateurs bio français ouais. il y a presque 30 ans. Mmh. Et à l'époque, c'était extrêmement innovant et surtout, on va dire que ça sortait complètement de la norme, hein, puisque c'est une graine qui a, c'est en gluten, qui a d'autres, qui a beaucoup d'acides aminés, qui a beaucoup amené, qui a aussi montré qu'à un moment donné, il y avait d'autres choses, donc très loin d'autres choses. Non, le quinoa de Bonivie, c'est pas quelque chose qui consomme beaucoup, si vous voulez, puisque déjà d'abord c'est que par container, il n'y a pas de transport par avion, et qui aujourd'hui, bien que nous ayons développé aussi du quinoa en France pour d'autres raisons, pour les raisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, hein, de filière française, le quinoa de Bonivie, c'est aussi le respect d'un certain nombre de familles. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille avec 250 agriculteurs, une quarantaine de familles sur l'altiplano à 4300 mètres, dans des conditions qui sont extrêmement manuelles. Voilà, il y a aussi une mission de commerce équitable, si vous voulez, pour moi. Voilà, et à ce niveau-là, il y a un intérêt.
Et tu dis, donc l'impact carbone, bon, certes, il est plus important que si c'est du local, mais il est quand même optimisé parce que c'est
Il est optimisé, on avait fait les calculs, on avait fait les calculs il y a quelques années pour vérifier, et finalement, avec des transports par container, puisque nous, on transporte, on fait des 20 tonnes ou 40 tonnes par container, donc à un moment donné, aujourd'hui, on a des transports qui restent très corrects et en termes de dépenses en termes de bilan carbone.
Et justement, Thierry, j'ai rebondi sur la question des Philibert. On voit que la demande par des produits français, c'est quelque chose qui était d'actualité, mais qui va probablement s'accélérer après la crise, même parfois imposée sur certaines filières. La grande distribution apparemment commence même à s'y mettre et à être plus sérieuse par rapport à cette démarche-là. Les quinoas, c'est un produit, moi particulièrement, je consomme les quinoas priméales et je consomme beaucoup. Et en France, c'est un produit qui est très populaire. Est-ce que la question va se poser de peut-être commencer à développer une filière plus importante en France? Je ne sais pas si c'est un produit, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on fait un petit peu dans la Loire, vers un jour, un peu de quinoa.
Exactement.
Est-ce qu'on a le potentiel en France de développer cette filière-là?
On a le potentiel de développer cette filière. Après, le quinoa que nous cultivons en France est un quinoa différent de celui de Bolivie, qui n'a pas la même taille de grain, qui se cuisine pas de la même façon, qui n'a pas tout à fait le même goût. Donc, oui, on peut développer du quinoa français. Non, il n'arrivera pas à obtenir le goût du quinoa de Bolivie avec un grain plus gros et d'autres saveurs. Après, nous, aujourd'hui, on a mis en place deux démarches de filière de quinoa français actuellement. On a même testé sur des rotations en Camargue, puisque vous savez qu'en Camargue, on a du riz. Et qu'aujourd'hui, ce riz, juste pour vous expliquer, que la rotation est à peu près d'entre 6 et 8 ans. C'est-à-dire que sur une même parcelle, on ne remet pas du riz bio l'année suivante. Vous voyez ? Donc, cette rotation
Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On laisse la parcelle sans… On met quel produit à la place du riz ?
On peut mettre d'autres produits et notamment, nous, on a mis du blé dur. Le fameux blé dur qu'on utilise pour la pâte. Et donc ça a été très intéressant parce que cette rotation des cultures nous permet justement de répondre à cette diversité végétale et en même temps de continuer à utiliser les parcelles sans la surutiliser pour produire du riz en intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en début d'année, on a démarré un test avec du quinoa. Pour voir si on pourrait faire une rotation quinoa, blé, riz. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, d'accord.
Tout à fait, ouais, c'est une bonne idée.
Voilà, donc on est en test.
Et les résultats?
Et les résultats, il faut attendre parce que ça
pousse. Ouais, faut que ça pousse.
Il faut vraiment faire un podcast l'année prochaine.
Hein, avec plaisir.
Avec grand plaisir. et du coup, si on arrive à la fin du podcast, on aime beaucoup terminer avec quelque chose de plus personnel, notamment des bons plans. Avant, on demandait à nos auditeurs de parler un peu comment ils avaient vécu les confinements. Bon, ça reste déjà un dans les passés, donc on souhaite s'est tourné vers l'avant, vers l'avenir. Mais est-ce que tu as, par exemple, découvert des choses intéressantes ces derniers mois, des bons plans que tu vas mettre en place par la suite, des choses que toi, à titre perso, tu as changé pendant cette période?
Moi, qu'est-ce que j'ai changé pendant cette période? Personnellement, une prise de conscience de l'importance de la cellule familiale. Je pense que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire finalement, nos enfants sont souvent en mouvement, à droite, à gauche, des amis, des activités. Et là, on nous a conviés à être ensemble pendant 8 semaines. Et c'est vrai que cette cellule familiale, pour moi, elle était très importante. Je me suis rendu compte à quel point elle représente pour moi des valeurs importantes. Et j'ai jamais eu autant envie de cuisiner que pour ma famille. Donc peut-être, vous voyez ce point, quand on dit pourquoi les Français voulaient autant cuisiner, il faut y trouver un lien. Vous voyez, à un moment donné, ce plaisir retrouvé des valeurs simples, de la cellule, de cette relation, de cet échange, ce discours que finalement on peut perdre par l'activité, par l'activité de nos enfants aussi, par plein de choses. Mmh. Il a été essentiel. Et quand on veut s'occuper de sa famille, on lui donne le meilleur. Et c'est pour cette raison que voilà, que ça renforce l'idée de continuer à consommer bio et leur expliquer à quel point aujourd'hui on est dans la question de modèle alimentaire résilient a été important. Voilà.
Ben super. Ben merci beaucoup, Thierry.
Je vous en prie. Merci à vous
C'était
deux.
Un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et bah, pourquoi pas enregistrer un épisode sur les quinoas et sur les essais que vous faites en Camargue pour produire du quinoa français. On serait
et
très intéressés.
Avec plaisir, en tout cas. Alors, rendez-vous est pris. Bah, ouais, il faut que tu aies des bonnes nouvelles à nous annoncer. Bah, voilà. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.
Merci.
Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.